dans le précédent épisode, nous avons suivi le destin des enfants juifs qui, grâce au Kindertransport, ont pu quitter l'Allemagne nazie en passant notamment par la gare de Herbesthal. Mais tous les réfugiés n'étaient pas des enfants. Bien avant les grands convois de déportation, bien avant Auschwitz, et bien avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants ont tenté de franchir clandestinement la frontière qui séparait l'Allemagne de la Belgique. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire largement oubliée, celle des réfugiés juifs qui ont tenté de fuir le Reich en passant par notre région, celle des passeurs qui les ont aidés, mais aussi celle des profiteurs qui ont transformé cette détresse humaine en un véritable commerce. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich allemand. Très rapidement, les opposants politiques ont compris que l'Allemagne était en train de basculer dans la dictature. Les premiers à chercher refuge en Belgique n'étaient pas nécessairement des juifs. On y trouvait aussi des socialistes, des communistes, des syndicalistes et d'autres adversaires du régime nazi. Dans la région d'Eupen, certains habitants ont alors décidé d'agir. Parmi eux figurait Karl Weiss, une personnalité importante du mouvement socialiste local. Son fils, Willy Weiss, participait activement à l'organisation des passages clandestins. Le système était relativement simple. Lorsqu'un réfugié arrivait à Aix-la-Chapelle, un signal convenu à l'avance était transmis. Willy Weiss allait alors à sa rencontre. Ensemble, ils prenaient le tram qui reliait la région frontalière. Et, peu avant la frontière, ils descendaient et poursuivaient leur route à travers les bois. Une fois du côté belge, ils reprenaient tout simplement le tram comme de simples voyageurs. Pour éviter d'attirer l'attention, les bagages suivaient parfois un autre itinéraire. L'une des sœurs de Willy Weiss transportait séparément les valises et les effets personnels. Ce travail était risqué, et s'il avait été découvert, il aurait pu entraîner l'arrestation des personnes impliquées. Mais, à cette époque, ces passages n'étaient pas organisés pour gagner de l'argent. Ils étaient motivés par la solidarité politique et par la conviction que ceux qui fuyaient le régime nazi devaient être aidés. Au fil des années, la situation s'est dégradée. Les mesures antisémites se sont multipliées en Allemagne. Des fonctionnaires juifs ont été exclus de l'administration. Des médecins ont perdu le droit d'exercer. Des commerçants ont vu leur clientèle disparaître sous l'effet des boycotts. Puis sont venues les lois raciales de Nuremberg de 1935. Pour un nombre croissant de juifs allemands, quitter le Reich est devenu une question de survie. La frontière belgo-allemande a alors pris une importance considérable. Cependant, franchir cette frontière était loin d'être facile. Les autorités allemandes surveillaient de plus en plus les départs. Les autorités belges, de leur côté, hésitaient constamment entre l'accueil et le refoulement. Cette ambiguïté a caractérisé toute la politique belge des années 30. La Belgique n'était pas le seul pays à être confronté à l'arrivée des réfugiés. La France, les Pays-Bas et la Suisse se montraient eux aussi très réticents. Partout, la crise économique nourrissait les inquiétudes. À droite, certains responsables politiques considéraient les réfugiés comme un danger pour la sécurité nationale. À gauche, on craignait une concurrence supplémentaire sur le marché du travail déjà fragilisé. Le gouvernement belge oscillait donc sans cesse entre humanité et fermeté. D'un côté, des organisations d'aide se sont mises en place. Parmi elles, le comité d'assistance aux réfugiés juifs, présidé par Max Gottschalk. Grâce à lui et à d'autres réseaux internationaux, de nombreux réfugiés ont reçu une aide matérielle, un logement provisoire ou la possibilité de poursuivre leur voyage vers d'autres pays. Car il faut bien comprendre une chose. La plupart des réfugiés ne souhaitaient pas rester en Belgique. Leur objectif était souvent de rejoindre la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Palestine ou un autre pays où ils espéraient reconstruire leur vie. La Belgique représentait avant tout une étape, une escale, un refuge temporaire. Le 15 mars 1938, la situation s'est encore durcie. Quelques jours après l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, le ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, a ordonné de refuser les visas destinés aux Juifs autrichiens contraints de quitter leur pays. Cette décision illustrait les hésitations permanentes des autorités belges. Fallait-il accueillir davantage de réfugiés ou fallait-il fermer les frontières ? Personne ne semblait avoir de réponse claire. Puis est survenu un événement décisif. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, un pogrom d'une rare violence détruit des milliers de commerces juifs, des centaines de synagogues et des dizaines de milliers de juifs sont envoyés dans les camps de concentration. C'est ce qu'on appelle la nuit de cristal. À partir de ce moment, la fuite est devenue une nécessité absolue. Les candidats à l'exil se comptaient désormais par milliers. Et notre région s'est retrouvée en première ligne. Contrairement à une idée parfois répandue, les cantons de l'Est ne constituaient pas un îlot de tolérance. L'antisémitisme y existait également. À Eupen, un magasin juif a été vandalisé. Sur la façade est apparue une inscription sans ambiguïté « Jude verrecke »« Crève, juif ». Cette violence rappelait que les réfugiés n'étaient pas forcément les bienvenus. D'ailleurs, peu d'entre eux souhaitaient s'installer durablement dans les cantons de l'Est. Beaucoup préféraient poursuivre leur route vers Bruxelles, Anvers ou l'étranger. À cette époque, les autorités belges ont considérablement renforcé la surveillance des frontières. Des postes supplémentaires ont été créés. La gendarmerie a reçu des renforts. Près de 350 gendarmes surveillaient les frontières orientales dans les provinces de Liège, du Limbourg et du Luxembourg. Les unités cyclistes participaient également au contrôle. Malgré cela, les passages clandestins ont continué. Chaque nuit, des hommes, des femmes et des enfants tentaient leur chance. Parfois avec succès, parfois non. Ainsi, par exemple, à Gemenich, en décembre 1938, une dizaine de réfugiés juifs allemands ont été abandonnés par leurs passeurs hollandais qui ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Les réfugiés ont supplié les autorités de les laisser entrer. Leurs demandes sont restées sans effet. Ils ont été reconduits à la frontière. D'autres ont connu un sort encore plus tragique. Selon plusieurs témoignages, certains juifs seraient morts de froid dans la forêt entre Eupen et Malmedy durant l'hiver particulièrement rigoureux de 1938-1939. Face à cette situation, de nouveaux réseaux sont apparus. Certains étaient composés d'idéalistes, d'autres voyaient surtout une opportunité financière. La frontière est progressivement devenue le théâtre d'un véritable marché clandestin. Les tarifs augmentaient sans cesse. Au début des années 30, quelques centaines de Reichsmark suffisaient souvent. Mais quelques années plus tard, les prix avaient explosé. La peur avait désormais un coût. Certains étaient prêts à payer n'importe quelle somme pour sauver leur famille. L'une des méthodes les plus étonnantes est apparue précisément dans notre région, profondément catholique. Elle utilisait une tradition religieuse bien connue. Les pèlerinages vers la chapelle mariale de Moresnet-Chapel. Chaque semaine, en effet, des groupes de fidèles quittaient Aix-Chapelle pour se rendre au sanctuaire marial et y prier la Vierge. Parmi eux se glissaient parfois des réfugiés juifs. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils se présentaient comme de simples pèlerins catholiques. Ils priaient et marchaient avec le groupe. Ils franchissaient la frontière et, une fois arrivés à Moresnet, des relais les prenaient en charge. Cette filière semble avoir fonctionné jusque vers 1942 ou 1943. Contrairement à d'autres réseaux, elle reposait largement sur le bénévolat. Sa principale initiatrice aurait été une certaine Inge Kaufmann, originaire d'Aix-la-Chapelle. Sa récompense, disait-on parfois avec humour, consistait davantage en cadeaux symboliques ou en pâtés frais maison qu'en véritable paiement. Dans un monde dominé par la peur et l'argent, cela mérite d'être souligné. Mais à partir de 1942, la situation a encore changé de manière dramatique. En janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, les dirigeants nazis ont coordonné ce qu'ils appelaient la solution finale à la question juive. Les grandes déportations ont commencé. Pour les Juifs allemands, quitter le Reich est devenu une urgence vitale. C'est alors qu'ont émergé les réseaux Hella et Hedwig. Leur fonctionnement était remarquablement bien organisé. Depuis Berlin, des candidats à la fuite prenaient contact avec les organisateurs. Ils étaient dirigés vers Aix-la-Chapelle. Là, ils trouvaient refuge dans des appartements conspiratifs. Leur arrivée était annoncée par télégramme codé « Es kommen Muster an », des échantillons arrivent. Le mot « Muster » servait de couverture. Les autorités ne devaient surtout pas comprendre qu'il s'agissait d'êtres humains. Une fois à Aix-la-Chapelle, les réfugiés étaient conduits vers Raren et Eupen. Puis, ils traversaient la frontière verte avant de rejoindre Verviers, Bruxelles ou Anvers. Tout cela avait un prix énorme, jusqu'à 3500 Reichsmark par personne. Une fortune pour l'époque. Au cœur de ce système se trouvait un homme, Hubert Krickel, un commerçant de Raren. Il recrutait d'autres passeurs pour effectuer les traversées à travers les bois. Il louait des cachettes, il organisait les déplacements. Il encaissait également une part importante des sommes versées. En septembre 1942, son activité a brutalement pris fin. Le 4 septembre, en effet, la Gestapo l'a arrêté dans un appartement d'Eupen où il cachait deux fugitifs. Durant les interrogatoires, il a reconnu son implication dans les réseaux. Il a expliqué avoir agi principalement pour des raisons financières. Le tribunal d'Aix-la-Chapelle l'a condamné à 3 ans de prison. En résumé, l'histoire de notre frontière pendant ces années ne peut pas être racontée de manière simpliste. Il ne s'agit pas d'une opposition entre héros et criminels. La réalité était beaucoup plus complexe. Certains ont risqué leur liberté pour sauver des inconnus. D'autres ont profité de leur détresse. D'autres encore ont détourné les yeux. Mais pour des milliers de personnes persécutées, cette frontière représentait souvent la dernière chance. La dernière possibilité d'échapper au Reich. La dernière occasion de rester libre ou tout simplement de rester en vie. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir ce qu'il est advenu des familles juives installées dans notre région. Car derrière les statistiques se cachaient des visages, des noms, des enfants et des familles qui vivaient à Eupen, à Astonet ou à Walhorn. Certaines de ces personnes sont nées ici et sont donc de véritables citoyens de l'ancien duché de Limbourg. Mais la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus.